Dans un article paru dans le journal Le Monde le 19 mars 2012, l'écrivain et éditeur français Charles Danzig dénonçait, en pleine campagne électorale, le populisme affecté des politiciens en lice, populisme qui, écrivait-il, teintrait aussi la littérature actuelle, de plus en plus asservie au réalisme et aux faits divers. Cette vision idéaliste de la littérature, Charles Danzig la transpose dans un nouveau livre intitulé « À propos des chefs-d'œuvre ». Nous le joignons à l'instant au téléphone, en direct de Paris. Charles Danzig, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, il s'est passé plein de choses, hein? En quelques minutes, on devait vous avoir dans le studio et finalement, on a des problèmes techniques, mais on est heureux que vous ayez réussi à attraper un téléphone. Il neige à Paris, dit-on, Charles?
Il neige à Paris et comme on est beaucoup moins intelligent en France avec la neige que chez vous au Canada, tout s'arrête, vous savez, c'est terrible. Heureusement, votre technicien formidable a pu rattraper ça avec
oui,
une ligne de téléphone.
Notre ami Martin. Alors, Charles, rappelons vos origines. Vous êtes né à Tarbes le 7 octobre 1961 dans une famille de professeurs de médecine. Vous avez fait des études de droit et puis vous avez publié très rapidement dans votre vie, à l'âge de 28 ans, un premier recueil de poésie avec un très beau titre, « Le chauffeur est toujours seul ». Vous êtes devenu éditeur et puis vous avez publié tout au long de votre vie des essais, des recueils de poèmes et des romans. Votre plus récent roman s'intitule « Dans un avion pour Caracas ». Il a été publié en 2011 et il est inspiré du personnage d'Hugo Chavez, président du Venezuela, décédé la semaine dernière. Quelle vision avez-vous de ce personnage?
Écoutez, je crois qu'il faut dire une chose pour commencer, c'est que la dictature est compatible avec l'élection. C'est une chose importante et on nous dit souvent que Chavez a été élu, ce qui l'aurait empêché d'être un
oui,
dictateur. Ça n'est pas vrai. Il a supprimé l'indépendance du pouvoir judiciaire, il a trafiqué les élections, enfin toutes choses habituelles chez les quasi-dictateurs ou dictateurs. La chose qu'il a inventée et qui m'a intéressé moi dans ce roman, c'est qu'il a inventé une forme moderne de dictature.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que jusqu'à lui, les dictateurs, c'était des vieux raseurs en costume militaire qui passaient des troupes en rue. Et lui, il a mis l'uniforme militaire de côté, il a mis une chemise rouge, il est allé à la télévision où il chantait. Ça n'empêchait pas de faire des horreurs, mais voilà, il trompait les gens. C'était ce mélange de chansons de variété et de militarisme qui est pour moi une forme du populisme moderne.
Ouais.
C'est un peu comme si Jay Leno était devenu dictateur des États-Unis, quoi.
En France, vous avez employé plutôt l'exemple de Patrick Sabatier, hein.
Bah, j'ai essayé de trouver un exemple américain, mais je ne sais pas quelle serait la
oui, oui. C'est l'une de vos bêtes noires, Charles Danzig, le populiste, puisqu'il en est question dans votre plus récent ouvrage à propos des chefs-d'œuvre. C'est un essai très personnel, hein, sur la notion de chef-d'œuvre en littérature. Alors, d'abord, vous expliquez que c'est une expression qui remonte dans l'histoire à peu près 1900. D'abord, pour désigner la beauté en artisanat. Et puis, c'est une expression qu'a employée pour la première fois Voltaire en 1752 pour les livres. On a pu réfléchir à la notion de chef-d'œuvre en littérature, vous l'écrivez très bien. Pourquoi, à votre avis?
Eh bien, je crois parce qu'on a un grand besoin de croire. C'est-à-dire que notre besoin de crédulité est énorme. On a besoin de foi, de croire et de mettre de la religion partout. Donc, nous avons inventé cette notion. On l'a répétée sans réfléchir. Moi, ce qui m'a fasciné, c'est que mon livre est le premier sur la notion de
oui,
chef-d'œuvre en littérature. C'est ça qui est le plus étonnant. Quand j'ai commencé à l'écrire, je me suis dit, tu ne vas pas l'écrire, car j'étais persuadé que j'allais trouver une bibliographie considérable, et non. Tout ça, c'est, encore une fois, c'est, vous savez, on dit que les Français sont un peuple cartésien, ça n'est pas vrai. Les Français sont un peuple de foi qui n'aime rien autant que répéter et surtout ne pas réfléchir.
Oui, on l'a bien vu lors des manifestations contre le mouvement, contre la loi sur les mariages gays en France, hein.
Ben oui, évidemment, c'était au-delà de l'ignominie. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est que vous avez dû voir comme moi, enfin la France qui passe pour le pays de la liberté,
oui,
du libertinage, etc. Pas du tout. Nous sommes un pays d'ordre, un pays servile, un pays imitateur et extrêmement conservateur. Seulement, comme on a eu quelques écrivains indépendants d'esprit, on confond le peuple français avec ses écrivains. Rien n'est plus faux. Et ce qui est amusant, c'est que vous avez dû voir comme moi que la reine d'Angleterre va, dans 2 ou 3 jours, on a annoncé ça, va faire une déclaration en faveur du droit des gays. Donc il ne restera plus comme vieux schnock, vieux homme de Cro-Magnon, grognon, pestant contre tout, que les députés de la droite française
oui,
qui seront à l'Assemblée nationale
oui,
en criant « Morroguet, Morroguet ».
Revenons-en au chef-d'œuvre, parce que c'est vraiment le sujet de votre livre et il est très intéressant. Votre définition du chef-d'œuvre, quelle serait-elle, Charles Danzig, à vous?
Eh bien, le chef-d'œuvre, vous savez, c'est une la chose compliquée, qu'il n'y a pas de critère du chef-d'œuvre. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on croit, il n'y a pas de classicisme du chef-d'œuvre. Le classicisme, je crois, est une notion inventée par les gens sérieux et ennuyeux pour mettre la littérature au garde-à-vous. Aucun chef-d'œuvre n'est classique, car aucun chef-d'œuvre ne ressemble à un autre et au précédent. Je crois que, précisément, ce qui fait la particularité du chef-d'œuvre, c'est que chacun est son propre critère. Chacun est unique. Je crois que c'est une œuvre d'une qualité exceptionnelle qui ne ressemble à aucune autre. Parce qu'au fond, quand on compare à La Recherche du Temps Perdu avec Ulysse de James Joyce ou Great Expectations de Dickens, avec Guerre et Paix, rien ne ressemble aucun ne ressemble à l'autre.
Oui, mais vous établissez évidemment, hein, puisqu'il faut bien écrire un livre et le rendre intéressant, une liste de critères, parmi lesquels on trouve, et ça a intéressé aussi notre collaborateur, le journaliste Jean-François Nadeau, qui écrivait, entre autres là-dessus, samedi dernier dans Le Devoir, une liste donc sur laquelle on trouve la notion de détail. Et vous faites une comparaison très intéressante pour expliquer votre idée avec l'interprétation que fait Jeff Buckley de la chanson Hallelujah de Leonard Cohen et cette fameuse expiration que l'on entend au tout début de la pièce et qui la rend, vous avez bien raison, qui vraiment lui donne ce trait de chef-d'œuvre.
Et oui, c'est ça, c'est la chanson la reprise de la chanson de Leonard Cohen par Buckley commence, comme tout le monde le sait, par cette très très brève expiration comme ça au début de la chanson. Ça dure, je ne sais pas, une demi-seconde. Et c'est ça, c'est ce détail, c'est cette idée de génie qui tient dans le détail qui fait que cette interprétation est un chef-d'œuvre. Mais je crois que le génie tient dans les détails. Tout le monde sait faire les choses d'ensemble. Si je suis en train de relire Guerre et Paix en ce moment, eh bien, de Tolstoï évidemment, eh bien, ce qui me frappe, c'est la description de la bataille d'Austerlitz par Tolstoï. Au lieu de faire ce qu'aurait fait un romancier moyen, c'est-à-dire d'écrire la bataille avec tous les détails, les couleurs des uniformes du régiment, le fameux soleil d'Austerlitz, etc., etc., eh bien, lui, au contraire, se concentre sur un détail. C'est un des personnages qui s'appelle Nicolas Rostov et qui est chargé d'aller chercher un ordre auprès de l'empereur de Russie. Mm-hmm. Eh bien, je ne vais pas vous expliquer les détails, mais toute la bataille est vue par ce point de détail. Et c'est là qu'est le génie. Parce que tout le monde a les idées d'ensemble. Là, ce qui est compliqué, c'est de voir le détail.
Vous insistez aussi sur la notion de forme, la façon dont on raconte les histoires. Pour vous, c'est ce qui est le plus important.
Mais oui, c'est ce qu'il y a de plus important, et vous avez tout à fait raison de dire ça, c'est une des choses qui caractérise les chefs-d'œuvre. Si vous étiez à côté de moi à Paris en ce moment, pourrais vous montrer mon fond d'écran de téléphone portable, et sur le fond d'écran de mon téléphone portable, il y a une photo de Pier Paolo Pasolini, avec une phrase qu'il a prononcée en dessous, qui dit « Rien n'est plus anarchique que le pouvoir, il fait ce qu'il veut ». Eh bien, c'est très important ce qu'il dit, car le pouvoir, c'est l'informe. On sait très bien que les gens de grand pouvoir imposent leur pouvoir grâce à l'informe, car dans les choses informes, les individus sont perdus, n'ont aucune référence, n'ont aucun point d'appui, alors que les chefs-d'œuvre, eux, et c'est pour ça que la littérature est très importante contre les pouvoirs, les chefs-d'œuvre tentent de donner une forme. Et c'est cette forme qui nous donne du courage et des points d'appui et des points de repère. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que le chef-d'œuvre est quelque chose d'esthétique, mais personne ne dit que l'esthétique n'a pas des conséquences politiques.
Oui, d'ailleurs, vous dites qu'on enseigne mal la littérature, hein, qu'en fait, on devrait l'enseigner, je suis très d'accord avec vous, comme un réceptacle d'idées avant tout. Ce sont des idées qui sont transposées par les livres.
Ce sont des idées, ce sont des images et ce sont des formes.
Oui.
Et l'enseignement de la littérature est trop souvent réduit à une vision morale de la littérature. C'est-à-dire qu'on a l'impression que bien des professeurs mettent les chefs-d'œuvre dans une casserole et la réduisent à une idée morale et très utilitaire. Évidemment qu'on peut dire qu'un livre a une utilité morale, mais on n'a pas besoin de la littérature pour ça. Les littératures apportent bien autre chose. Moi, ce qui m'épate, c'est que pendant toutes mes années d'études au collège et au lycée en France, et Dieu sait qu'on avait des cours de français, personne ne m'a dit une seule fois « ceci est une belle phrase ». Ah, on me disait, ah, Rabelais, l'humanisme, ah, Zola, ceci, ah, Balzac, le réalisme, mais qui m'a dit, c'est une belle phrase? Or, ce qui fait la singularité de la littérature, précisément, c'est ça, c'est la belle phrase et les formes.
Parmi la liste d'œuvres que vous proposez dans votre ouvrage, que vous considérez comme des chefs-d'œuvre, bon, on trouve Hamlet de Shakespeare, À la recherche du temps perdu, de Proust, Le rouge et le noir, de Stendhal, Gatsby le magnifique, de Fitzgerald. Bon, il n'y a personne qui va vous contredire, hein, mais il y a peu de femmes. Aucune femme, en fait. Marguerite Duras, que vous égratignez assez volontairement, et puis personne n'est là. Virginia Woolf, Annie Ernaux, Yourcenar. Pourquoi?
Eh bien, écoutez, d'abord, je crois que vous vous trompez, car d'une part, Duras y est, je l'égratigne pour certains de ses romans, mais pas pour ses récits. Et d'autre part, je parle longuement de Emily Dickinson, par exemple.
Longuement?
Je parle d'Emily Dickinson.
Oui.
Et donc, on ne peut pas dire que les femmes n'y soient pas. Dans mon souvenir, Madame de Staël y est aussi.
Ouais.
Et puis, je fais des livres avec les écrivains auxquels je pense. Je ne fais pas des livres en fonction de pourcentage sociologique, de temps de femmes. Car à ce moment-là, il faudrait voir le nombre de Noirs qu'il y a dans mon livre, le nombre d'Asiatiques, le nombre de... Si vous voulez, il m'est à peu près égal de savoir si un écrivain est un homme, une femme, jaune, noir. Pour moi, c'est un auteur de femme, de forme.
Oui, on n'écrit pas avec son sexe, mais peut-être que vous devriez vous ouvrir un peu plus à la littérature écrite par les femmes quand même. C'est un souhait.
Vous un peu plus à la littérature écrite par les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis très ouvert à la littérature écrite par les femmes. Je n'écris pas un livre ni pour ni contre les femmes. Ça n'est pas l'objet de mon livre. Je vous assure que tout ça, c'est à ce moment-là, parce que vous comprenez, vous dites ça parce que vous êtes une femme.
Évidemment.
Vous ne me dites pas, il n'y a pas beaucoup d'Asiatiques dans votre livre, ce qui d'ailleurs est le cas. Mais je n'y ai pas pensé.
J'ai remarqué aussi.
Moi,
Êtes-vous là, Charles Danzig? Oui, je vous entends, moi.
Je vous entendais plus.
Ah bon. Cela dit, vous égratignez beaucoup Céline et son voyage au bout de la nuit. Pourquoi?
Eh bien, je crois que c'est une des tâches de ma vie et que je ne céderai jamais là-dessus. C'est que je crois qu'il y a une imposture dans mon pays, la France, une imposture littéraire envers Louis-Ferdinand Céline. C'est-à-dire que si on me disait que Louis-Ferdinand Céline est un bon auteur pamphlétaire des années 30 et d'avant la guerre, qui a mal tourné, qui avait un talent comique d'exagération et d'injure, si c'était raisonnablement ça, je serais raisonnable aussi et je dirais c'est exact. Mais nous vivons en France dans cette illusion et ce lieu commun que les deux plus grands écrivains de la littérature française au XXe siècle sont Marcel Proust et Louis-Ferdinand Céline.
Oui.
Ça me paraît cocasse et plus grave que ça même. C'est-à-dire que ça me paraît d'abord injurieux vis-à-vis de Marcel Proust, car il est un fait objectif, c'est que Marcel Proust a des moyens littéraires bien supérieurs à ceux de Louis-Ferdinand Céline. Il sait faire des milliers de choses alors que Céline ne sait faire qu'une chose, c'est engueuler les gens, en gros, si vous me passez ce gros mot. Et d'autre part, si on me dit ça, Céline est du niveau de Marcel Proust, c'est à peu près comme si on me disait que Cro-Magnon, c'est Louis XIV. C'est quand même, c'est cette imposture-là que je dénonce, parce que tout simplement, c'est un fait objectif qui vient, j'essaie de l'expliquer dans mon livre, pour des tas de raisons d'ailleurs assez sinistres, où se mêlent de la politique, l'angoisse de la France d'avoir perdu la Deuxième Guerre mondiale et de ne pas avoir accepté ça, plus des impostures diverses, mais... Et puis vous savez, il y a une brutalité dans la littérature de Céline qui, hélas, se met à convenir de plus en plus aux temps très brutaux que nous vivons à cause de la crise actuelle.
Oui. Justement, un chef-d'œuvre aussi dit quelque chose de l'époque de laquelle il est issu, hein, quand même.
Écoutez, peut-être et peut-être pas, car précisément, une chose qui me paraît très singulière dans les chefs-d'œuvre, c'est qu'ils disent quelque chose de leur auteur très fortement, et effectivement, ils viennent d'une époque, mais en même temps... Il ne nous renseigne pas tellement sur ce qu'était l'époque, parce que vous avez cité Hamlet tout à l'heure. Qu'est-ce que nous dit Hamlet du règne de la reine Élisabeth Ière? Au fond, pas grand-chose. Il y a une espèce de chose d'apparence d'éternité dans les chefs-d'œuvre qui fait qu'ils viennent évidemment et très fortement d'un écrivain et d'un homme ou d'une femme qui a écrit en fonction de sa personnalité.
Ouais.
Mais en même temps, ça ne renseigne pas tellement sur l'époque. Si vous voulez même, vous parliez de Proust tout à l'heure, Proust a écrit son livre il y a 100 ans maintenant, puisque le premier volume de La Recherche du Temps Perdu a été publié en novembre 1913.
Tout à fait.
Eh bien, quand le livre a été publié en 1913, c'était un livre d'une certaine façon démodé, car il décrivait des choses d'avant, et il décrit, pour moi, La Recherche du Temps Perdu, c'est les funérailles nationales du 19e siècle. Et ce n'est pas un livre qui nous révèle quelque chose sur le temps où Proust écrivait.
Qui annonce par contre un sentiment bien propre à notre époque, la nostalgie. Hein.
Oui, en même temps, Proust est très malin aussi, c'est-à-dire que la nostalgie, il en joue et il en rit aussi. Mmh. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que Proust parle du passé, mais quand il écrit, ce n'est pas du passé, c'est du présent et c'est un créateur. Il faut se méfier des grandes ruses, des grands créateurs, justement. C'est-à-dire qu'il joue... Il joue de la mélancolie et des choses du passé, mais il est très dans le présent et il veut que son livre marche.
Alors, à propos des chefs-d'œuvre, votre nouvel ouvrage fait vraiment réfléchir. La beauté de la littérature y transparaît. C'est un ouvrage qu'on vous conseille fortement. Alors, il est publié chez Grasset, Charles Danzig. Bonne soirée à Paris. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci.